Lily pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Pas encore de compromis à la SNCF sur les salaires. La grève est maintenue pour le premier week-end des vacances. Un TGV sur deux vendredi sur l'axe sud-est. Scandaleux, s'indigne la direction. Comment passer les fêtes face à l'épidémie de Covid? Y aura-t-il de nouvelles mesures? Conseil de défense sanitaire vendredi. On fera le point. Dans l'actualité encore aux États-Unis, le policier blanc qui a tué George Floyd endosse pour la première fois une part de responsabilité. La réforme de l'assurance chômage validée pour de bon, décision du Conseil d'État. Et puis un voyage dans les sonorités latines à la fin de ce journal. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir nous parlons expérimentation animale avec un sondage passionnant commandé par des scientifiques sur le principe utiliser les animaux. Vous êtes majoritairement contre, mais lorsque c'est nécessaire à la recherche, notamment celle contre le Covid, vous êtes pour à 74%. Tout cela parle d'un manque d'informations. Que doivent donner les scientifiques? Quels animaux? Combien? Dans quelles conditions? Et la question sous-jacente aussi, pourrions-nous faire différemment? À vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. L'appel à la grève est donc maintenu à la SNCF. À partir de vendredi, jour de départ en vacances, et le trafic sera au moins pour cette première journée assez perturbé. Bonsoir Lauriane Delanoë.
Bonsoir.
Les prévisions sont tombées en fin de journée. Qu'est-ce que ça donne?
La moitié des TGV est supprimée sur l'axe sud-est. Après-demain, vendredi, un train sur deux donc entre Paris-Lyon, Paris et Marseille. C'est un axe très emprunté pour les départs en vacances de fin d'année. Des millions de Français vont rejoindre leur famille. Et c'est la prévision pour vendredi. Uniquement pour l'instant, pour samedi, dimanche. On attend dans les prochains jours le nombre de grévistes. On doit savoir 48 heures à l'avance et tout va changer avec les prochaines discussions attendues. Le PDG de SNCF Voyageurs qui gère ces lignes, l'axe sud-est, ne s'est pas contenté tout à l'heure de donner les prévisions. Christophe Fanichet condamne aussi la grève au moment de Noël.
Je tiens à le dire d'un mot extrêmement simple, c'est scandaleux. Scandaleux au moment où les Français ont le plus besoin de nous pour se déplacer. Ils ont eu une année difficile, une année de Covid. Ils ont envie de se retrouver pour des moments plus festifs. Et nous ne serons pas au rendez-vous sur l'axe sud-est. C'est scandaleux également parce que nous avons fait des avancées financières à un moment où pour nous c'est un élément très important. Pour notre entreprise, d'être au rendez-vous des Français.
Voilà, on entend le PDG de SNCF Voyageurs. Il y avait des négociations aujourd'hui. Le PDG parle d'avancées proposées aux syndicats. Qu'est-ce qui bloque, Lauriane?
Alors, c'est la question des rémunérations. Les syndicats demandent une augmentation générale. Le président PDG de la SNCF Global, Jean-Pierre Farandou, expliquait ce matin que ces négociations étaient sur le point d'aboutir avec des primes, notamment de pouvoir d'achat. En tout, c'était une hausse moyenne de 2,7% des salaires avec les primes, ce qui est proche de l'inflation. Les syndicats demandaient plus et à l'instant, l'UNSA, le syndicat UNSA qui était dans la grève m'indique qu'il vient de recevoir ses conclusions, ses traces écrites de la SNCF avec les propositions, que ça les satisfait. L'UNSA va donc sortir de la grève. On attend donc de voir quels résultats pour les prévisions de transport samedi, dimanche. Pareil du côté de Sudrail qui est aussi dans le préavis. Mail reçu il y a une demi-heure à peine. Les Sudrail demandent des discussions ce soir avec la direction, toute la nuit même s'il le faut, pour voir donc s'il reste ou pas dans la grève et si ses propositions sont satisfaisantes.
Voilà, on sent que ça bouge ce soir, les négociations. Continue donc, l'UNSA sort de la grève à partir de ce week-end, mais les prévisions de trafic sont maintenues pour la journée de vendredi. Un TGV sur deux roulera sur l'axe sud-est. C'est une autre mobilisation d'ampleur, historique même aujourd'hui, celle des magistrats. Leur cri, il y a trois semaines, dans une tribune au journal Le Monde, a fait l'effet d'une déflagration. Juges, greffiers, avocats, tous les acteurs de la justice témoignent depuis de moyens qui ne suffisent pas, de temps qu'ils n'ont plus pour faire leur travail correctement. Et ils l'ont fait savoir dans la rue aujourd'hui, à Bourges, Orléans, Périgueux, Grenoble, Vannes, à l'appel de 17 organisations. Johanna est une jeune greffière au tribunal de Pontoise.
On nous vend à l'École nationale des greffes un métier passionnant, enrichissant. Sur ce côté-là, je ne doute pas. Mais pour autant, il y a quand même un gros fossé entre l'arrivée en juridiction où toutes les collègues sont en souffrance, les magistrats sont en souffrance. On a des moyens humains et matériels misérables. On est là, on bouche les trous, on devient des robots, enfin voilà, des robots à statistiques. On ne peut plus rentrer dans les dossiers, on ne peut plus faire de l'humain alors qu'on a aussi un rôle principal dans la communication avec le justiciable, tous les intermédiaires de la justice, les avocats et compagnie. Et au final, on n'arrive plus à faire de l'humain quoi, parce qu'on a les statistiques toujours sur le dos, les piles qui augmentent. J'ai l'impression de mal faire mon travail parce que du fait de ce manque de moyens, en fait, Il y a plein de choses qui nous échappent.
Johanna, jeune greffière au tribunal de Pontoise, interrogée ce midi par Laurélie Carive. On n'a jamais vu une telle mobilisation, une unanimité dans le constat d'une justice déshumanisée, estime le syndicat de la magistrature. Alors que le garde des Sceaux, jugé ce matin sur Inter, avoir réparé l'urgence, il met en avant un budget en forte hausse.
Alors, c'est un président ou un candidat qui est invité ce soir à la télévision?
Emmanuel Macron en entretien fleuve sur TF1 à 4 mois d'élection présidentielle. Ça fait plus qu'irriter les candidats déclarés, au point que certains saisissent le CSA. Mais non, le président n'est pas en campagne. La preuve, il prend des mesures difficiles. Et en campagne, c'est bien connu, on n'en prend pas. En tout cas, c'est ce que semble penser le porte-parole du gouvernement.
Vous trouvez que c'est être en campagne, vous, que de fermer les discothèques? Vous trouvez que c'est être en campagne que de mettre en place des mesures pour inciter, pousser au maximum des Français à se faire vacciner alors même que certains d'entre eux ne veulent pas le faire? Vous trouvez que c'est en campagne que de faire la réforme de l'assurance chômage? On est amené à prendre des mesures extrêmement difficiles, précisément parce qu'on n'est pas en campagne. Et on n'est pas en campagne précisément parce qu'on est amené, et on doit être amené à prendre des décisions difficiles. Et je peux vous dire que dans un contexte où vous êtes attaqué sans cesse par des oppositions qui ne sont pas dans une logique constructive, mais qui ont simplement envie de critiquer en permanence ce qui est fait, oui, je vous confirme que c'est difficile.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres ce midi. Le gouvernement qui s'attend à atteindre les 4000 patients en réanimation autour des fêtes. Un conseil de défense sanitaire était prévu lundi prochain. Finalement, il aura lieu dès vendredi. Le gouvernement évoque de nouvelles mesures. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
À quoi faut-il s'attendre?
Eh bien d'abord et avant tout, à un message de vigilance. Ce conseil, vous l'avez dit, a été avancé précisément pour cela, pour marquer les esprits avant que les Français partent en vacances. On aura donc droit à des recommandations, nous dit Gabriel Attal, pour nos réunions de famille. Limiter le nombre d'invités, aérer les pièces, faire un test avant de se retrouver, listait hier le conseil scientifique. Une chose est sûre, selon nos informations, on ne reviendra pas à la célèbre règle des 6 à table, comme à Noël dernier. Il s'agira aussi, Hélène, de trouver les moyens d'accélérer la vaccination. Le délai pour effectuer sa dose de rappel pourrait être raccourci de 5 à 3 mois. Et enfin, les contrôles aux frontières devraient être renforcés, en particulier avec le Royaume-Uni, avec peut-être un test PCR obligatoire à l'arrivée. Voilà donc les 3 grands axes de ce Conseil de défense. Mais tout à l'heure à l'Assemblée, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a évoqué une autre piste. On passe l'éponge pour ceux qui ont un faux pass sanitaire.
Je veux que nous puissions travailler un dispositif qui permettrait un système de repenti, c'est-à-dire que quelqu'un qui bénéficierait d'un faux document puisse se mettre en règle et qu'il n'y ait pas, qu'il y ait abandon de poursuite. Je travaille cela, j'en ai parlé au garde des Sceaux, je n'ai pas d'annonce à faire, mais ça me semble assez logique parce que l'urgence, c'est que les gens se vaccinent, soient protégés.
Alors ce sera peut-être un peu court pour entériner cette mesure dès vendredi, tout comme d'ailleurs la vaccination généralisée des enfants. L'exécutif attend encore plusieurs avis scientifiques, mais se prépare à lancer la campagne pour tous les 5-11 ans dès la fin du mois de décembre.
Oui, elle a commencé cette campagne pour les 5-11 ans aujourd'hui, uniquement pour les enfants à risque qui souffrent d'asthme ou de diabète, qui ont des personnes immunodéprimées dans leur entourage. Ils sont près de 400 000 selon le ministère de la Santé. Le centre de vaccination de Valenciennes a accueilli les premiers dans la journée. Reportage France Bleu Nord de Bastien Roch.
Pour certains comme Élise, ce vaccin, ce n'est pas une partie de plaisir.
Moi, ça me stresse un peu de me faire vacciner, mais aussi je suis proche des immunodéprimés. C'est pour le bien de la famille, mais à la fois, j'ai pas envie.
Heureusement, cette fois, les plus inquiets peuvent compter sur le Père Noël.
Bonjour les enfants!
Il sait trouver les mots pour les rassurer.
Même les adultes, ils ont peur aussi. Papa et maman, ils ont peur aussi. Et ils ne le disent pas, donc tu as le droit aussi d'avoir peur. Hein, tu as le droit d'avoir peur, mais quand tu vas passer pour faire la piqûre, ça va faire simplement comme une grosse pincette et ça fait pas plus mal que ça.
Ragaillardi, Élise et son frère peuvent retrouver l'infirmière, Amélie.
Alors c'est pour qui?
Les deux?
Eh ben super, on y va.
S'il leur restait quelques craintes, c'est elle qui les efface.
Plus de psychologique avec les adultes, ça c'est sûr. On leur explique, on voit tout de suite s'ils ont été préparés par leurs parents et surtout on concentre la respiration. Souvent ça marche bien, ça les aide à détendre leurs muscles et puis même eux, ça leur permet de se concentrer sur autre chose et d'un peu oublier la piqûre.
Vas-y, relâche bien les épaules, tu te détends, continue.
Parfait, vous avez eu vos petits cadeaux du Père Noël ?
Après la piqûre, Élise le reconnaît, ce n'était pas la mer à boire.
Avec le Père Noël qui offre des petits cadeaux, c'est vraiment sympa, je ne regrette pas.
Les enfants repartent ainsi avec le sourire, un jeu, des sucreries et un bon pour une deuxième injection dans quelques semaines.
Vaccination des enfants ouverte aussi en Grèce, en Espagne, en Hongrie ou dans la ville de Berlin. Aujourd'hui, l'Italie de son côté restreint encore les conditions d'entrée sur son territoire. Test négatif obligatoire pour tous, même pour les vaccinés.
Aux États-Unis, Derek Chauvin évitera donc un second procès.
Ce policier blanc, déjà condamné pour le meurtre en 2020 de George Floyd à Minneapolis, plaide coupable sur une autre partie de l'enquête. Il reconnaît avoir violé les droits constitutionnels de la victime lors de l'arrestation particulièrement violente qui avait conduit à sa mort. Et c'est une première. Correspondance signée Loïc Loury.
Jamais depuis la mort de George Floyd, la nuque écrasée sous son genou le 25 mai 2020, Derek Chauvin n'avait admis le moindre tort. C'est donc chose faite. Le policier blanc de 45 ans aujourd'hui a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de violation des droits constitutionnels du quadragénaire noir. Ce jour-là, il l'avait violemment maintenu près de 10 minutes face contre terre jusqu'à la mort, malgré les suppliques de George Floyd et de plusieurs passants. Des images insoutenables qui avaient entraîné une vague inédite de manifestations antiracistes aux États-Unis. En juin dernier, Chauvin avait déjà été condamné à 22 ans et demi de prison par le tribunal de Minneapolis en plaidant coupable. Il évite un second procès fédéral cette fois et une possible condamnation à vie. À la place, les procureurs réclament 25 ans de prison mais à purger en même temps que la peine initiale, soit 2 ans et demi de plus pour Derek Chauvin à passer derrière les barreaux. Charge désormais au juge de se prononcer. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'actualité à l'étranger nous ramène aussi en Afghanistan ce soir, où la famine menace plus de la moitié des 38 millions d'habitants selon l'ONU. Le pays est même en tête de ceux qui risquent d'être confrontés à une crise humanitaire d'ici l'an prochain, selon l'International Rescue Committee, devant l'Éthiopie et le Yémen. Valérie Krova.
Vivre aujourd'hui en Afghanistan, c'est faire des choix.
Les gens ont faim. Ils doivent choisir quel membre de la famille va manger ou quel repas sauter.
Mike Bonke est chef de mission d'action contre la faim en Afghanistan.
Nous voyons des gens qui n'ont pas d'argent en poche et qui ne peuvent pas se rendre dans un magasin pour acheter de l'huile, un peu de sucre et du thé, qui sont les produits de base en Afghanistan.
C'est la conséquence de la dévaluation de la monnaie afghane et des sanctions imposées par les Occidentaux depuis le retour des talibans. Les ONG militent auprès de la communauté internationale pour obtenir une exemption à ces sanctions, ce qui permettrait par exemple de faciliter les transferts bancaires pour fournir toute l'assistance humanitaire nécessaire aux Afghans.
Dans le contexte où de nombreux gouvernements, que ce soit européens, mais aussi les États-Unis et le Canada, ne sont pas représentés dans le pays, il est important qu'ils soient à l'écoute des besoins sur le terrain. Nous devons veiller à ce que l'aide humanitaire ne soit pas politisée.
Mike ira plaider la cause des Afghans demain à l'Élysée.
Nous voudrions demander au gouvernement français de faire ce qui est juste pour le peuple afghan.
Et si possible, aider à trouver une solution avant la fin de l'année.
Et nous retournons à présent au procès des attentats du 13 novembre, parce que la Cour a entendu aujourd'hui le récit de la grande sœur et d'une nièce des frères Fabien et Jean-Michel Klein, la voix de la revendication des attentats. Ils ne sont pas dans le box parce que présumés morts en Syrie. Bonsoir Sophie Parmentier. C'est donc deux femmes en prison, Sophie, qu'a entendu la Cour, Jennifer et Anne-Diana Klein.
Oui, Anne-Diana Klein apparaît la première sur les écrans depuis sa prison. Longue chevelure blonde, bouclée, yeux légèrement maquillés. Elle sourit souvent en parlant de ses petits frères, Fabien et Jean-Michel Klein. Fabien était le plus convaincant, mais c'est Jean-Michel qui est parti le premier en Syrie en 2014, dit-elle, et elle reconnaît qu'elle a tenté en vain de les rejoindre en 2015 dans le califat de Daesh pour pratiquer l'islam radical auquel ils croyaient tous. On a été à l'extrême, concède-t-elle, mais je suis déçue qu'ils aient participé à une telle monstruosité. Puis elle avoue qu'elle-même a applaudi d'autres attentats. Charlie Hebdo, je me disais que c'était bien fait pour eux, qu'ils le méritaient. Sa fille, Jennifer, apparaît à son tour en visio. Depuis une autre prison, chemisier blanc, gilet noir, visage austère, Jennifer Klein a passé 5 ans en Syrie, de 2014 à 2019, avec ses 5 jeunes enfants, jusqu'à leur arrestation. Là-bas, elle a vu ses oncles, mais elle assure qu'elle s'est fâchée avec eux. Alors, les attentats, j'en ai jamais parlé avec mes oncles, jure-t-elle devant la cour. Et je vais vous parler sincèrement. Tout le temps que j'ai passé à Daesh, j'ai toujours cru que les médias avaient grossi ça, que mes oncles avaient rien à voir là-dedans, dans la revendication, martèle Jennifer Klein d'une voix assurée. Mais sans convaincre.
Sophie Parmentier avec Geoffrey Marianne en direct de la cour d'assises spéciale sur l'île de la Cité à Paris. De nouvelles auditions et une garde à vue un an après la disparition de Delphine Jubillard dans le Tarn. La nouvelle compagne de Cédric Jubillard, principal suspect de l'enquête, est entendue depuis ce matin à Gaillac. C'est la deuxième fois. Sur l'assurance chômage, cette fois, la bataille est bien perdue. Les syndicats n'étaient pas très optimistes après la dernière audience au Conseil d'État. Leur déception se confirme ce soir. Les juges valident la réforme après 2 ans et demi de rebondissement. Denis Gravouille de la CGT est amer.
C'est quand même une très mauvaise nouvelle pour les demandeurs d'emploi. Plus d'un million de personnes ont commencé ou vont avoir une baisse d'allocation chômage. Ce qui est quand même très étonnant, on a le droit de se poser des questions. D'habitude, on ne commande pas les décisions de justice ou on est déçu d'une décision du Conseil d'État. C'est quand même que pour quelle raison le Conseil d'État a-t-il changé d'avis entre novembre 2020 où il nous a donné raison en constatant qu'il y avait un mode de calcul complètement inégalitaire. Pourquoi a-t-il changé d'avis entre novembre 2020 et maintenant ? C'est totalement absurde. On peut se demander s'il n'y a pas un recul de la démocratie avec le fait que le contre-pouvoir qu'aurait dû être le Conseil d'État a peut-être cédé à des pressions de l'Élysée et du gouvernement.
Denis Gravouille avec Fabien Cazot. Et le SMIC bénéficiera-t-il d'un coup de pouce ? Les partenaires sociaux entendus sur le sujet aujourd'hui. Sans geste supplémentaire du gouvernement, le salaire minimum augmentera de 14 euros brut par rapport au 1er octobre, au début de l'année prochaine. Insuffisant, dénoncent les syndicats, d'autant que selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des Français pourrait reculer de 0,5% sur les 6 prochains mois.
Le lancement du très attendu super télescope James Webb est encore reporté.
Prévu d'abord le 18, puis le 22 et maintenant le 24 décembre depuis Kourou. Un problème de communication entre l'observatoire et le système de lancement au sol, explique la NASA. C'est le télescope le plus grand, le plus puissant jamais lancé dans l'espace. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Et la saga n'en finit pas avec ce bijou de technologie.
Oui, oui, c'est une nouvelle mésaventure et que ce énième report. Mais cet outil d'observation spatiale est attendu par les astronomes depuis une décennie, alors inutile de tenter le diable. La NASA confirmera ou pas le lancement la veille de Noël dans 2 jours. Samedi, le télescope a été hissé au sommet de la fusée et c'est une fois connecté avec le lanceur qu'un problème de communication est apparu. Peu loquace, la NASA évoque un câble de transmission de données qui serait défectueux. À l'Agence spatiale européenne, partenaire de ce méga projet, Marcus Kistler-Patig, chef de la science et des opérations, se veut rassurant.
En ce moment, depuis samedi, on a assemblé donc le satellite sur l'Ariane 5 et à ce moment-là, il faut faire tous les tests à nouveau pour savoir si rien ne s'est passé, etc. Et la communication dont on a besoin pour faire tous ces tests, c'est le point en ce moment qui flanche. C'est pas absolument inhabituel.
Après ces multiples reports, les équipes fatiguées ne sont toutefois pas fébriles, selon Daniel de Chambure, responsable de l'adaptation d'Ariane 5 à ce passager de 6 tonnes.
Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de choses spécifiques. C'est bon, juste vis-à-vis du web, en particulier l'installation de la coiffe, a été répétée sur un vol précédent au mois de juillet pour s'assurer que tout se passera très bien. Pour moi, c'est la prochaine étape qui va être très délicate, qui va prendre une demi-journée hein, pratiquement.
Voilà, cette mise de la coiffe où pas un gramme de poussière n'est tolérée pour ce télescope d'exception. Rappelons que son miroir immense, 6,50 m, est pliable pour tenir sous la coiffe. Si la date du 24 n'était pas retenue, il y aurait d'autres possibilités jusqu'au 6 janvier, excepté le 25 décembre.
On suit ça avec passion et avec vous, Sophie Bécherel. Des étoiles pour une place en quart de finale au championnat du monde de hand. Les Françaises affrontent la Suède ce soir à 20h30. Et puis je vous emmène en Bretagne pour une création mondiale au couvent des Jacobins à Rennes. Pièce pour orchestre symphonique et piano de la compositrice mexicaine Gabriela Ortiz. Ça s'appelle Fractalis et c'est Stéphane Capron qui nous en parle.
Gabriela Ortiz a composé cette œuvre pendant les confinements, une façon pour elle de continuer à voyager. Elle s'est carrément lâchée dans l'écriture, ce qui n'est pas pour déplaire au pianiste Simon Graici.
Elle s'est inventé des univers parallèles, des univers où il y a des rivières cosmiques, où les cactus sont en délire. On est en plein univers mexicain un petit peu psychédélique.
Fractalis est une œuvre qui englobe beaucoup de styles différents, la salsa, la musique folklorique, le jazz. Elle puise aussi ses racines dans le grand répertoire classique.
Il y a une inspiration un petit peu française. Plus on avance dans l'œuvre et plus on retrouve la splendeur du rythme latino-américain, des percussions. J'ai l'impression, enfin, j'ai hâte de la créer, cette œuvre. C'est un privilège de travailler avec une compositrice vivante avec nous et surtout tellement passionnante qui rend les choses encore beaucoup plus grandioses.
Gabriela Ortiz a déjà été remarquée sur la scène internationale. Gustavo Dudamel, le directeur musical de l'Opéra de Paris qui a déjà créé l'une de ses œuvres à Los Angeles, dit qu'elle est l'une des plus grande compositrice de sa génération.
création à voir ce soir et demain au couvent des Jacobins Rennes, puis à Saint-Brieuc et à Quimper.
Eh bien, on a tout noté. Merci beaucoup, Hélène Fillion. On se retrouve demain.